activité. Tac. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui, qui sont là pour la première fois? On voudrait vous bénir avec un petit cadeau de bienvenue. Ouais, est-ce que du coup il y a quelqu'un là-bas au fond, là, si vous voulez, tac, levez votre main si vous voulez qu'on vous remette. Voilà. Bah, soyez bénis et bienvenue parmi nous. On va avoir un temps du coup pour les offrandes, pour amener à Dieu nos offrandes, c'est important aussi pour la vie de l'église. Donc si vous n'êtes pas de cette église, ça ne vous concerne pas. Si vous êtes de l'église, vous avez à cœur de donner avec joie et libéralité, nous dit la parole, sans contrainte. Donc si vous voulez bénir l'œuvre de Dieu, ben, y a des corbeilles qui passent, vous pouvez mettre ce que vous avez, ce que Dieu a déposé sur votre cœur. Et je vais laisser la place à Jo pour des annonces.
Eh bien, les annonces, c'est très simple. Rome, si tu veux juste fermer la porte au fond. Les annonces, c'est qu'on démarre un début d'année. Déjà, au nom de toute l'équipe Connect Grenoble, nous voulons souhaiter la bonne année. Peut-être que vous pourriez vous tourner vers votre voisin, si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Juste tournez-vous à 2-3 personnes à côté de vous en disant « Je te souhaite la bonne année. Meilleurs vœux pour toi, que Dieu puisse te surprendre sur cette année encore. » Et également, pour vous dire, on aimerait démarrer l'année en jeûne et prière. Bon, par ma mère, il n'y en a peut-être pas. Bon, je vais le répéter. On aimerait démarrer l'année en jeûne et en prière. Histoire de perdre tous les kilos que vous avez pris pendant les périodes de fête. Et notre église, essentiellement, elle fonctionne beaucoup sur WhatsApp. Et du coup, on va faire durant toute cette semaine, on vous invite à jeûner, prier avec nous. Si vous ne pouvez pas jeûner parce que toute la journée vous travaillez, il n'y a pas de problème, vous pouvez peut-être sauter juste un repas. Mais l'idée, c'est pendant toute une semaine, on va sur le groupe WhatsApp mettre des petites capsules, on l'a fait l'année dernière, c'était génial, ça a bien marché, des petites capsules de prière, d'encouragement que vous allez recevoir tous les jours sur le groupe WhatsApp. Si vous ne faites pas partie de cette église et si vous aimeriez rejoindre cette église, vous n'avez pas d'église, mais vous dites voilà, cette église me plaît, j'aimerais me joindre ici à Connect Grenoble, ce que Dieu est en train de faire. Venez me voir, moi ou JD ou quelqu'un qui est devant, on peut vous rajouter sur le groupe WhatsApp et du coup vous avez accès à toutes les annonces et à toute la vie de l'église, mais également vous pouvez aller sur le site internet de l'église Connect Grenoble, vous avez ça, il y a toutes les prédications et les annonces, il y a plein de choses que vous pouvez voir sur l'église Connect Grenoble. Mais on aimerait démarrer ce début d'année juste en jeûne, en prière, on aimerait chercher la face de Dieu en tant qu'église. En tant qu'église. Et juste c'est notre souhait, c'est notre désir. Et pourquoi on a besoin de chercher la face de Dieu? Parce qu'on a été pas mal secoué cette dernière année 2024. On a eu des bénévoles, on a eu des gens qui sont très très chers à nos cœurs, qui ont décidé de quitter l'église pour aller vers d'autres aventures. Je vous avoue que c'était un peu inattendu pour nous, pour moi, pour mon épouse, pour toute l'équipe. Et d'un autre côté, alors qu'on vivait toutes ces choses-là, on a vraiment cherché la face de Dieu. Et ce que le Seigneur, personnellement, à moi m'a parlé, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est quoi que je t'ai demandé de faire? Qu'est-ce que réellement, c'est quoi l'appel de Connect Grenoble? Pourquoi? Comment? Et ça m'a amené à vraiment vous à reposer les fondements de la vision. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Et à vous défier et à vous inviter à vivre ce que Dieu veut pour cette église-là. Et ça m'a amené, moi, à me questionner et à vraiment me remettre devant Dieu, à me remettre en question, parce que je suis faillible, parce que je ne suis pas parfait. Et en fait, l'église Connect Grenoble, c'est le club des imparfaits. Que tous ceux qui sont imparfaits disent amen. Si t'es imparfait, il y a Flo, elle a levé les deux mains. Il y en a qui se sentent plus imparfaits que d'autres. Mais c'est pas ça qui arrête Dieu. Et du coup, j'aimerais juste, pour ceux qui viennent ici un peu, je pense que c'est important ce début d'année de refaire juste l'histoire de l'église. Pourquoi est-ce qu'on est ici? D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va? Et si tu mets la prochaine diapo, voilà. Et ici, si tu peux juste peut-être éteindre celle-là, non, juste avant. Juste cette rangée-là. Histoire qu'on voit, non, cette rangée-là. Elle va venir, yes, comme ça c'est un peu mieux. Tout le monde voit bien la photo ? Il y a de ça peut-être 6 ans, il y a 7 ans, il y a une équipe de Montélimar qui nous a rejoint à Paris avec Elisa. On était à Paris, on vivait comme des Parisiens, on aimait notre vie parisienne. Moi j'avais un job où je bossais sur les Champs-Élysées au 122, j'avais un bureau magnifique, j'avais un salaire important. La vie était bien et on vivait dans une église qui vivait quelque chose d'assez fort dans l'esprit de Dieu, dans le prophétique, dans plein de choses extraordinaires. Et il y a un moment donné, le Seigneur il nous a clairement dit, c'est fini votre temps à Paris, vous retournez à Grenoble. Et c'était compliqué pour nous parce que on aime bien notre confort. Peut-être que vous n'aimez pas Paris, mais nous on aimait bien Paris, on avait notre appartement, notre salaire, tout allait bien. Et on a commencé à voir l'équipe avec Montélimar parce que c'était des amis Montélimar qui vivaient et qui ont vécu avec nous dans la même famille d'église. Et tout d'un coup, en fait, ce que nous ne savions pas, c'est que eux, ça faisait depuis des mois et des mois qu'ils priaient pour implanter une église à Grenoble. Et du coup, on a commencé à chercher Dieu ensemble et on a dit « Ouais, mais pourquoi pas ?» Et puis on a commencé, on a uni nos cœurs en jeûne et en prière pour implanter prochaine diapo Grenoble. Et en 2020, bon, désolé pour la Grenoble, il y a une petite faute qui s'est mise, mais en tout cas en 2020, les Valbons ont quitté Paris pour venir à Grenoble. Et Dieu nous a bénis, on a acheté une maison prochaine diapo avec une chapelle à côté de notre maison. Comme si on achetait une maison presque, on n'a pas fait exprès, c'était pas voulu ou recherché. Et du coup, alors qu'on avait une chapelle à côté de la maison, on a dit, ben, ce serait peut-être bien qu'on invite des gens, qu'on loue le Seigneur ensemble. Et tu mets la prochaine diapo, on a commencé à ouvrir la maison et des gens sont venus. Et entre-temps, juste après, il y avait l'église, l'équipe de Montélimar, entre-temps, ils sont venus et on priait ensemble, on disait « Seigneur, waouh, c'est extraordinaire !» On avait à cœur Grenoble et entre le rosé pamplemousse et le spritz, on priait. Combien croient que Dieu peut nous visiter alors qu'on boit un verre de rosé ou pompe? Ok, d'accord. Et du coup, entre le rosé pamplemousse et le spritz, on a démarré prochaine diapo, on a démarré l'église. Et tout d'un coup, l'église et le Seigneur a commencé à nous parler. Et c'est là où je voulais vous présenter vraiment la vision de Connect Grenoble. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, écoute bien ce qui va se passer. C'est le moment important. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Voilà la seule raison. Écoutez bien, voici pourquoi on est là. Il n'y a pas 36 raisons, c'est vraiment comme une sorte de mandat. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu a commencé à nous parler très fortement, Elisa et moi-même, sur Ésaïe 61. Ça a résonné sur nos cœurs. On en pleurait, on était touchés par Dieu. Dieu, c'est comme s'il mettait notre nez sur Ésaïe 61. C'est comme le nez dans la Bible, vous ne pouvez pas partir ailleurs. Voici ce que je vous mandate. Et dans Ésaïe 61, c'est le discours inaugural que Jésus vient. Et ça pouvait peut-être être même un peu prétentieux. Je disais, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas peut-être une vision à la baisse? Et le Seigneur disait, non, c'est ce que je veux faire à Grenoble. Et on a commencé à lire ce texte et c'est comme si chaque verset était un ordre, était un mandat de vision pour Connect Grenoble. Chaque déclaration, et voici ce que Jésus a dit, l'Éternel m'a oint. Vous êtes loin pour une mission. Peut-être vous êtes ici, tu cherches un sens à ta vie, tu sais pas trop où tu vas. J'aimerais te dire qu'à partir du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, l'Éternel te oint pour une mission. Il m'a oint pour annoncer à tous les humiliés une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, il y a de la joie. En fait, le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs leur délivrance. Il y a toutes sortes de personnes qui vivent dans cette cité, qui sont enclavées dans des dépressions, dans de la chaîne, dans des chaînes, dans toutes sortes d'addictions. L'Éternel nous envoie pour annoncer un moment de délivrance. À ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté, pour proclamer pour l'Éternel une année de faveur, un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler. Cette église est appelée à consoler, elle est appelée à tous ceux qui mènent le deuil, à apporter de la joie à ceux qui sont endeuillés, de la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête. Il y a des gens qui viennent là, il y a comme une huile de joie qui va être déposée dans la louange, dans le style de vie que nous voulons développer, pour revêtir, les vêtir d'un habit de louange cherche au lieu d'un esprit abattu. Et si tu mets la prochaine diapo, et c'est tout simplement, on a extrait de ce texte les grandes thématiques de ce que Dieu donnait en mission à Connect Grenoble, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est cette dimension de soin, de sozo. En fait, le terme guéri, quand vous regardez en grec, ça peut prendre plusieurs sens. Et quand on parle de guérir, il y a en texte hébreu, il y a plusieurs sens. Et quand on regarde le texte hébreu de soin, de guérir, c'est guérir, libérer, délivrer. Et c'est cette notion, quand on lit le texte, que Dieu veut pour cette église, c'est guérir, libérer, délivrer des gens. Toute cette dimension de délivrance, peut-être il y a des gens, vous avez des liens d'âme, vous avez des liens démoniaques, etc. On croit que Dieu va vous libérer, vous délivrer. Dans le but de vous rendre libre et autonome. Il y a plein de gens qui vivent, je dirais, complètement dépendants de l'Église, complètement dépendants des ministères, complètement dépendants de quelqu'un. On aimerait que vous, en tant que chrétien, vous puissiez être libre dans votre relation avec Dieu. Je trouve ça super, je vais continuer encore, dites amen quand vous voulez. Libre! Racheter le temps perdu. Il y a cette dimension également de racheter du temps. Peut-être vous êtes ici et vous dites, j'ai l'impression d'avoir perdu des années de galère. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a volé des années de ma vie. J'aimerais vous dire, et c'est ce que Dieu, nous croyons, et ce que Dieu va faire dans cette église, c'est que vous allez gagner du temps. Dieu va donner une onction particulière pour cette église, pour racheter du temps qui a été perdu. Et alors qu'on met ces choses en place, il y a un changement de l'atmosphère. Cette atmosphère, comme ce brouillard, comme cette pollution qui est au-dessus de Grenoble, c'est comme si Dieu va souffler et les gens vont la vivre. Et nous ne pouvons pas le créer nous-mêmes humainement. C'est quelque chose que Dieu doit faire et va faire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est notre mandat. C'est pour ça qu'on est ici. Et maintenant, ça c'est la mission, c'est la direction. Et se pose la question, prochaine diapo. Du coup, oui, excusez-moi, avancez un petit peu. Du coup, on a démarré finalement à Connect Grenoble. Il y avait toute cette histoire et finalement, on a trouvé cette salle à Grenoble. Du coup, 2025, là, c'était la direction. Et maintenant, c'est bien, mais maintenant, c'est comment? Comment est-ce qu'on se rend dans ce mandat que Dieu nous donne? Et alors que je priais, il y a cette image qui est venue, c'est comme l'église Connect Grenoble pour cette année 2025, il y a sept valeurs qui sont comme des piliers qui transportent, c'est des piliers, c'est comme des colonnes qui forment cette église. Et on va prêcher durant toute l'année ces valeurs. Mais en fait, ce que le Seigneur montrait, c'était assez bizarre, c'est que ces valeurs, c'était comme ces sept trompettes qui vont retentir. Et il y a des gens, alors que vous allez entendre cette valeur, cette trompette, ça va résonner dans votre cœur. C'est comme l'Esprit de Dieu va attester à ton cœur que ce qu'est ce qu'il veut pour ta vie. Et on le croit de tout notre cœur. Du coup, on va le vivre. Il y a sept grandes valeurs, c'est de vivre l'Église en famille. Et les prochains du mois, à chaque mois, pendant sept mois, on va prêcher sur ces sept piliers. Mais là, c'est juste aujourd'hui le discours inaugural, si je peux dire. Mais à partir de la semaine prochaine, on va prêcher, on va parler sur la famille. Il y a notamment Emmanuel de Montélimar, qui est un pasteur à Montélimar, qui va venir prêcher et partager son cœur par rapport à la famille. C'est qu'on veut vivre l'église en famille. C'est-à-dire, quand on parle de l'église en famille, c'est pas que il y a les kids à côté qui vivent leurs petites affaires et nous on est une église d'adultes. On veut vivre l'église en famille. C'est-à-dire que nos enfants font partie pleinement du culte, de la grande assemblée. C'est pour ça que ils sont sortis, ils ont un message approprié à eux, mais de plus en plus on veut intégrer nos enfants dans tout ce qu'on fait. Que ce soit dans les temps de louange, dans les temps de Sainte-Seine, que ce soit l'accueil, on veut intégrer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Du coup, c'est une valeur forte. Je ne vais pas prêcher là-dessus, je vous les énonce très rapidement. La grâce. Il y a plein de gens qui parlent de la grâce, mais qui ne vivent pas la grâce. Du coup, on va regarder ensemble en tant qu'église. On va enseigner et prêcher qu'est-ce que la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi, comment, pourquoi. Ensemble également, la culture de l'honneur. Il y a des gens pour qui ici, la culture de l'honneur, ça ne vous parle pas du tout. C'est quoi, comment. Et on va le voir ensemble. Les relations authentiques. Il y a plein de gens, à chaque fois que je les rencontre, ils me disent, mais moi, monsieur, je suis aussi bien que tous ces hypocrites qui vont à l'église. Parce qu'il y a parfois ce sens à ce qu'on porte un masque, je ne suis pas vrai avec les gens. On aimerait, et on va vous défier d'être vrai, d'être authentique. Ça veut dire que si t'as passé une mauvaise semaine, t'as le droit de faire la gueule. Bon, je pensais que c'était bien. Elle dit amen. T'as le droit de pas être bien. En fait, viens tel que tu es. Sois vrai. Également, l'amour du Père. On a fait une conférence autour de l'amour du Père. Ça a été bouleversant. C'est une valeur phare. C'est un des piliers forts de cette église où on va parler de l'amour du Père. Qu'est-ce que l'amour du Père? On est appelé en tant que fils, fille de Dieu. Et à la fin, bien sûr, il y a cet envoi. C'est d'être des disciples. Aller à l'extérieur. Changer le monde. Changer le monde. Alléluia. Voici le comment. Ésaïe 61, c'est la direction. Et le comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire avec ces piliers qu'on va construire avec ta vie, avec nos vies, ensemble, toi, nous, ensemble. Voici ce qu'on va construire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et du coup, dernière diapo, et juste avant, ce n'est pas la prédication, et je vais venir tout de suite sur la prédication. On va prêcher sur cette valeur. On va également faire une formation à tous les bénévoles. On va, dans les prochaines semaines, faire un recrutement massif pour Connect Grenoble et à toutes les personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent s'investir, que ce soit dans des postes de responsable de pôle, de département ou un simple bénévole. Tu ressens et tu aimerais apporter ta contribution à l'église, on va faire une formation pour les bénévoles, mais une formation sur la culture. Il y a des gens, vous venez à l'accueil, ça ne te demande pas un grand diplôme pour sourire. Mais par contre, on va former les bénévoles sur la culture. La culture, c'est-à-dire quand les gens viennent, comment est-ce qu'on veut les accueillir? Comment est-ce qu'on veut les bénir? Comment est-ce qu'on veut prier pour eux? Du coup, on vous invite. Voilà les. Alors, il y a un recrutement en masse pour tous ceux qui veulent s'investir. Eh bien, on va vous faire cette formation-là parce que on veut vivre ensemble ces valeurs et on veut se lever et se mettre en marche. Que tous ceux qui le veulent réjouissent avec moi un amen. Et est-ce qu'on peut applaudir ce que le Seigneur va faire ensemble en 2025? Et maintenant, je peux prêcher. C'est la vision. C'est pourquoi on est ici. C'est là où on va. Et le titre de mon message, c'est « Jusqu'où Dieu contrôle ma vie ?» Je me suis intéressé à une période de l'histoire avec tous ces mouvements et avec tout ce que notre église était en train de vivre dans toute cette grosse remise en question que je vivais personnellement. Je disais, Seigneur, je suis pas le leader rêvé. Est-ce qu'il y a un leader dans la Bible? Un leader rêvé, un leader qui ne fait jamais d'erreur. Est-ce que tu pourrais me parler? Est-ce que tu pourrais m'inspirer, etc. Et on va regarder ensemble à une période, si tu mets la prochaine diapo, une période de l'histoire d'Israël. En fait, l'histoire d'Israël, quand ils sont sortis du peuple d'Égypte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la Bible? Juste levez la main, si c'est votre cas. Tout le monde connaît la Bible à peu près? Ouais. Ancien, Nouveau Testament? Bon, c'est bon, tout le monde maîtrise. Alors, juste de l'Exode, quand on sort de... le peuple d'Égypte quitte l'Égypte, il y a ce temps d'Exode au désert qui a duré 40 ans. Ensuite, il y a eu toute la période des juges, qui a duré 350 ans, la période de roi 450 ans. Il y a eu un moment, et vous le savez peut-être, mais Israël a été déporté en exil à Babylone. Ils ont eu 3 exils dans toute leur histoire, mais ça a duré 70 ans. Il y a eu ensuite une période intermédiaire de 400 ans à peu près, où il y a eu un silence. Toute cette période-là correspond à peu près à 1450 ans avant la venue de Jésus. Donc, entre la sortie du désert, et le moment où Jésus est venu, il y a eu toute cette grande période qu'on voit ici. Et là où on va s'intéresser maintenant, c'est à cette période charnière ici, entre la période des juges et des rois, située la prochaine diapo, ici. Cette période-là, elle est super importante. Et juste avant d'aller un petit peu plus loin, il y a plusieurs façons de diriger le peuple de Dieu. Il y a plusieurs systèmes humains qui existe dans le monde. Il y a le premier que nous connaissons, c'est la démocratie. Par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire c'est nous qui votons pour un chef. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? C'est nous ce qu'on fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'impression de vivre vraiment une démocratie dans notre pays, parce qu'on a l'impression que ça ressemble plus à une dictature. Mais bon, la dictature ensuite, c'est tous les pouvoirs entre les mains d'une personne. On l'envoie, on le voit sur Terre. Il y a le régime en Corée du Nord avec Kim Jong-il. Il y avait Bachar qui était là, Saddam Hussein, etc. En fait, c'est un homme qui est quasiment Dieu sur Terre, qui décide tout, qui fait tout. Et si t'es pas d'accord avec lui, tu peux mourir. Il y a également la monarchie. La monarchie, vous vous rappelez, c'est un monarque, c'est un roi qui existe et qui gouverne. Et la question à se poser, c'est est-ce que le royaume de Dieu fonctionne sous une démocratie? Je vous pose la question. Qui dit oui, qui dit non?
Qui dit oui.
D'accord. Est-ce que Dieu fonctionne avec une dictature?
Non.
Est-ce que Dieu fonctionne en monarchie? On serait tenté de dire oui parce qu'il est roi. Et oui, Dieu n'est pas. Quand vous lisez la Bible, c'est pas une démocratie. Hein. On n'a pas voté pour élire Dieu. Hein. Vous êtes avec moi? Du coup, Dieu fonctionne en théocratie. Théos, c'est le mot Dieu. Théos, cratie. La théocratie, c'est un système où le pouvoir est exercé par Dieu lui-même. Et Dieu choisit des gens, des autorités, ce qu'il place. Et en fait, toute cette théocratie est basée sur des principes divins, comme des lois religieuses, comme supérieures à celles des hommes. Et dans ce système, on voit que Dieu a choisi des dirigeants comme Moïse, comme Josué, et il y a toute cette période de juges qu'on a vu juste un petit peu avant. Et là, on va se concentrer, si tu mets la prochaine diapo, on va se concentrer, je dirais, sur une période charnière. Il y a eu un moment, il y a eu un carrefour historique où l'histoire d'Israël a basculé. C'est un moment où on tourne une page de 350 ans de l'histoire d'Israël. Vous êtes avec moi? Du coup, plongeons ensemble et regardons à ce carrefour, qu'est-ce qui s'est passé? Prochaine diapo, quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges en Israël. Et ses fils ne marchèrent point dans ses voies, mais ils s'en déterminèrent pour rechercher le gain. Ils prenaient des présents, ils pervertissaient le droit. Alors tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et ils vinrent vers Samuel à Rama et lui dirent « Voici, t'es devenu vieux et tes fils ne marchent point dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme ont toutes les autres nations. » Et cette parole déplut à Samuel parce qu'ils avaient dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel alors pria l'Éternel et l'Éternel dit à Samuel « Obéis à la voix du peuple et en tout ce qu'ils diront, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. » Et en fait, quand on regarde cette histoire, ça m'a troublé et j'ai cherché Dieu là-dessus et je dis « Seigneur, quand le peuple va voir Samuel, en fait, il est légitime dans sa demande. » Et en fait, ils vont vers Samuel en disant, écoute, le système qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la théocratie où Dieu gouverne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde, c'est un échec. Et en fait, à ce moment-là, le peuple aurait peut-être dû chercher Dieu ensemble. Bien, on cherche le Seigneur. Il y a un trouble. Il y a même des leaders qui ne fonctionnent pas. Il y a des leaders qui sont en échec, et c'est vrai. Et plutôt que de chercher Dieu, ils ont dit, finalement, ça ne marche pas. Et ils sont allés en disant vers Samuel, écoute, ça ne marche pas. On te propose un autre système. Du coup, prochaine diapo. Dieu est en contrôle de son peuple. La théocratie, c'est Dieu qui dirige, qui est en contrôle dans son plan initial. Et quand, en fait, le système que Dieu voulait mettre en place, c'est qu'il était roi. Il était, en fait, c'est, quand on lit cette pensée-là, c'est que cette théocratie, c'est Dieu qui l'a inventée, c'est Dieu qui l'a placée, c'est Dieu qui l'a voulu. Il voulait, en fait, Dieu diriger son peuple, comme de la même façon qu'il désire, de la même façon, excusez-moi, qu'il décide et qu'il souhaite diriger ta vie, ma vie. Et il a donné sa loi, la loi au travers de Moïse, elle régulait toute la vie spirituelle. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu qui nous guide, qui nous conduit. Et ensuite, il a établi des leaders, ce qu'on appelle les juges. Et les juges, c'est pas un juge comme nous on l'entend aujourd'hui, un juge, tu sais, avec la toge rouge et qui te juge. Non, à cette époque-là, les juges, c'était c'était des chauffettes en hébreu. En fait, ils se désignent par une fonction judiciaire, comme on l'entend aujourd'hui, mais ça englobe plusieurs rôles importants. Le juge, c'était un peu comme un représentant de Dieu, comme Dieu le roi, parce que Dieu était le roi suprême. Israël, à cette époque-là, n'avait pas de roi humain pendant toute cette période. Les juges étaient comme des instruments que Dieu agissait au travers d'eux. Ils avaient une autorité déléguée pour gouverner, délivrer, enseigner le peuple. Et en fait, c'était un leadership parfois sur ces juges-là. Ils sont comme des exécuteurs de la volonté de Dieu. Parfois, certains, c'était un leadership ponctuel, divinement inspiré, contrairement au roi qui avait une fonction plus permanente, héréditaire. Les juges étaient appelés par Dieu pour des missions spécifiques et souvent limitées dans le temps. Leur leadership dépendait de leur soumission à Dieu, à l'Esprit de Dieu, et Dieu les équipait pour cette mission. Et parfois, leur rôle essentiel à ces juges, cette période-là qui a duré 350 ans, ils devaient rendre la justice au nom de Dieu. Sous le système de la théocratie de Dieu, la justice était au cœur de tout ce système-là. Elle reflétait la nature juste et sainte de Dieu. Les juges, en conclusion, ils étaient là pour appliquer les lois divines, restaurer l'ordre et la paix en Israël et parfois corriger les dérives spirituelles et morales du peuple. Et en fait, la question, c'est, on est dans un système ici qui est dirigé par Dieu. Et la question que j'ai envie de poser, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, à votre avis? Est-ce que ça marche? J'aime bien Mathilde. Mathilde avait ouais. On a un système où Dieu est le président, c'est lui qui gère, mais il prend quelques employés, parce que dans toute structure humaine, on a besoin de gens, donc il prend Moïse, il prend Josué, après il y a l'histoire des juges, mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça marche? Qui pense que ça marche? Lève la main. Qui pense que ça marche pas? Ouais, il y a quelques-uns, c'est mitigé, hein. En fait, les amis, c'est que, on va le voir ensemble, et je me suis amusé. Moi, c'était vraiment une révélation quand j'ai vu ça, je vous partage. J'ai fait même des statistiques sur est-ce qu'il y a un système qui est plus bon qu'un autre, parce que ça me parlait tellement. Est-ce que ça, en fait, dans un système de théocratie, est-ce que ça signifie que tout va bien? Eh ben non. Il y a toujours, parfois, des moments de doute, des moments où notre nature déchue prend le contrôle, des moments où on se plante. C'est l'histoire avec Abraham, alors qu'il est, il s'est appelé le père de la foi, mais il va mentir au sujet de sa compagne. C'est l'histoire de Moïse, alors que c'est un leader. La Bible nous dit que c'était le plus humble de la terre, mais Dieu lui donne un commandement. Au lieu de parler au rocher, il se met à le frapper. Il y a toujours notre fêlure humaine, il y a toujours une portion de nous qui on est qui fait que ça foire. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a un monde, en fait, le monde parfait existera au ciel. Le monde parfait, un jour, va être dans la présence du roi des rois avec Jésus, et on s'en va vers là. Et en fait, ce qui est touchant, quand j'ai relisé cette histoire, c'est que Dieu ne prend pas les responsabilités des erreurs humaines, mais il les intègre dans son plan souverain pour nous enseigner et rediriger son peuple. Mieux encore, écoutez bien les amis, Dieu utilise nos échecs, nos manquements pour nous enseigner des leçons. Il reste souverain même dans un système imparfait, parce que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et vous savez, j'ai étudié un petit peu le texte hébreu dans le mot « tout concourt bien ». Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire tout. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Si tu mets la prochaine diapo, tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. Et Dieu, voilà, c'est ça. Il utilise encore nos échecs humains, nos manquements pour nous enseigner. Il reste souverain malgré nos plantages, malgré le fait qu'on se plante. Et quand tu vois, malgré le fait que tu suis Dieu, que tu essaies de marcher de tout ton cœur, et ben le risque, parfois, c'est aussi de te tromper. Mais Dieu a une façon spécifique de diriger ta vie. Et tu dois accepter, justement, peut-être que ta vie ressemblera pas à quelqu'un d'autre, mais de marcher avec lui dans son plan initial, dans ce qu'il veut. Vous êtes avec moi? Et quand Dieu adresse à Samuel, il dit, écoute, le peuple vient, ils disent, écoute, on ne veut plus ce système-là, ça ne marche pas, on veut autre chose. Dieu dit, mais c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Et j'avais du mal avec ça, parce que je dis, Seigneur, en fait, je trouve que tu es un peu dur. Moi, je suis plutôt avec le peuple. Il y avait à cette époque-là, il y avait deux gars qui étaient les fils de Samuel, qui faisaient n'importe quoi. Et c'est, moi, je suis plutôt comme le peuple, ça ne marche pas. Sauf que, en fait, Dieu, c'est comme si ce n'est pas nos erreurs humaines qui arrêtent son plan. Et ça, on a du mal à le comprendre. Moi, personnellement, j'ai du mal à l'intégrer dans mon disque et dans mes calculs. Parce que je pense que dès que je fais une erreur, je foire le plan de Dieu. Mais en fait, Dieu ne pense pas comme nous. Dieu est au-delà de nos erreurs, de nos échecs. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu mets la prochaine diapo, il y a, prochaine diapo juste après, voilà, il y a cette beauté qui fait que je me lève tous les matins et mon cœur est en émoi. J'ai du mal à respirer juste. C'est ma fille Chloé qui est ici, qui est belle, qui est... Et plus elle devient grande et plus mon cœur bat. Même ma mère, elle me dit, je vais la protéger des futurs garçons qui vont venir, etc. Je vais prendre une canne, je vais les chasser au loin. Et mon cœur est... À chaque fois, elle, c'est comme des sentiments amoureux. J'ai une femme, mais ma fille, je t'assure, elle me débloque le cœur. Et un matin... Il y avait un soleil de 1000 ans. Il y a un matin, et ma femme n'était pas là, et j'entends ma fille qui ne fait pas de bruit. Et maintenant, je sais que quand ma fille ne fait pas de bruit, il y a quelque chose qui cloche dans la maison. Mais j'attends 10 minutes, j'attends 20 minutes, et je descends, mais tu sais, avec ma robe de chambre, mon café à la main, tout va bien. Puis c'était une journée, tu sais, où tu te lèves, où tu te sens bien. Je sais pas comment dire, tu es bien, il y a... Il y a des fois, tu te lèves un peu le matin, t'as la tête qui est pas trop bien. Mais là, cette fois-ci, c'était un matin où tout était rose, où exceptionnellement, je me sentais bien. Et quand je descends en prochaine diapo, voilà ce que je vois. Ma fille a fait une peinture abstraite. Ce que vous voyez pas, c'est que c'est sur mon mur. Et juste en dessous du mur, il y a des cimaises qui m'ont coûté un bras et un œil. J'ai mis des semaines. Et vous savez ce qu'elle me fait, ma fille? Elle me dit, papa, j'ai voulu te faire un dessin. J'étais fou, j'étais enragé. Et là, j'étais pas dans la culture bienveillante, vous savez, parce que il y a toujours des gens qui viennent, des parents. Oui, mais en fait, il faut que tu inclues ta fille à réparer ses bêtises. Mais il n'y a rien à réparer ici. Il y a juste une peinture à refaire. Enfin, et c'était horrible. Bref, finalement, je lui dis, j'ai cours dans ta chambre, je veux plus te voir, hors de ma vue. Bref, une fois la colère passée, j'ai pris du dissolvant, j'ai réussi à tout nettoyer comme si son échec n'avait jamais eu lieu. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à cause de l'échec de ma fille, j'ai remis en question son avenir ? À aucun moment je l'ai imaginé. Est-ce qu'à cause de l'échec ou le foirage de ma fille, j'ai dit, mon Dieu, ma fille, je vais peut-être le réévaluer son avenir un petit peu à la baisse. Peut-être ses études d'avocat. On va au moins y penser. À aucun moment, parce que je suis son père, c'est ma fille, je l'aime. Et à aucun moment, il m'est venu à l'esprit que ces échecs, ces mondes, plantages, ces erreurs ne remettent en doute les plans, les projets que j'ai pour elle. De la même façon que tes échecs, mes échecs, ce qu'on arrive parfois à foirer, ne remettent pas en cause le plan de Dieu, que tous ceux qui le veulent disent un amen avec moi. Amen. Dieu les inclut dans son plan. Prochaine diapo. Du coup, quand ça ne marche pas, on bascule sous un autre système qui est « je dirige ma vie ». Prochaine diapo. Je suis au contrôle, je dirige ma vie. Et du coup, j'ai regardé, écoutez-moi bien, regardez bien. Du coup, en fait, j'ai fait une espèce de... J'ai fait des maths. J'ai additionné tous les juges qui étaient sur cette période en théocratie sous le système de Dieu. Il y a 13 leaders, 350 ans. Et du coup, j'ai fait des bons juges, il y en a eu 10. Il y a eu deux juges qui étaient à peu près mitigés. Alors quand on parle de juges mitigés, vous savez, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Gédéon. Gédéon a bien commencé, mais vous savez, à la fin, il a terminé dans l'idolâtrie, etc. Et en fait, finalement, Samson, pareil, Samson, il a bien commencé, il a mal terminé, plus ou moins. C'est un peu mitigé. Mais dans un système gouverné par Dieu, voilà les stats. Et dans un système où on a décidé, où le peuple de Dieu estiment finalement qu'on veut une monarchie, on veut être comme les autres peuples, on veut diriger la vie comme les autres peuples. Et en fait, quand le peuple a fait cela, ce qu'il a fait réellement, c'est qu'il a décidé de reprendre le contrôle. Vous êtes avec moi ? Ce que le peuple a fait, c'est qu'ils ont dit, jusqu'à maintenant, on était dans un système où c'est Dieu qui dirige ma vie, mais je trouve qu'il a manqué. Je trouve que Dieu s'est planté. Son système ne marche pas. Du coup, quelque part, c'est je reprends le contrôle sur ce qui ne va pas. Et sous ce système-là, et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il a accepté, malgré tout, de continuer de marcher avec son peuple. Et dès lors, il y a eu 39 leaders, 39 rois. 19 en Israël, 20 en Juda, parce que le royaume a été séparé il y a 450 ans. Et il y a eu 7 bons rois seulement, 3 mitigés, 29 bons rois. Mauvais rois. Les amis, il est temps de tirer un grand trait, de faire le résultat. Prochaine et dernière diapo. Dans une théocratie là où Dieu contrôle, il y a 80% de bonnes choses et 20% de mauvais. Dans un système où c'est l'homme qui contrôle, il y a 80% de mauvais et 20% de bons. La question est, sous quel système voulez-vous vivre ? Sous quel système est-ce que tu confies ta vie ? Sous quel système Dieu dirige ta vie ? Et en fait, ce qui est intéressant ici, comme je vous l'ai dit, même sous une théocratie, il y a toujours une partie humaine qui fait qu'on se foire. Et du coup, en fait, la question que je pose ici, c'est est-ce que Dieu dirige ta vie ? À quel pourcentage ? À 100%, à 10%, à 20%, quel est le pourcentage où il marche avec toi, où tu lui confies ta vie, où tu vis ce qu'on appelle en soumission ? Et je termine avec ceci, dernière diapo. Existe-t-il, d'un point de vue spirituel, un leader parfait qui dirige son peuple ? La réponse est oui, il s'appelle Jésus. Et quand on regarde la vie de Jésus, si tu reviens juste après, est-ce qu'il y a un... Oui, c'est ça. Il y a cette bouteille d'eau, ici il y a de l'eau qui est à l'intérieur. Mais s'il y avait du coca, ce serait du coca. S'il y avait du thé, ce serait du thé. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que parfois la vie fait qu'on est secoué. Et la question ici, c'est que quand notre vie elle est secouée, qu'est-ce qui va en sortir ? Cette bouteille, c'est ta vie. Cette bouteille, c'est ma vie. Et il y a des moments où on va être secoué et ce qui est à l'intérieur de nous va ressortir. Les choses cachées, les choses profondes, les choses qu'on ne voit pas en temps normal. Mais faites confiance à la vie pour vous secouer. Il y a des choses au plus profond de vous-même qui vont revenir à la surface, qui est peut-être cachées, qu'on n'avait jamais vues. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que regardons ensemble à la vie du leader parfait et à Jésus. Quand sa vie fut secouée à la croix, voici ce qu'il en est sorti. Il y a de l'amour et du pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand la vie du Christ est secouée, ce qui en ressort, c'est la compassion pour les autres. À sa mère, il dira, femme, voici ton fils. À Jean, il confie sa mère en disant, voici ta mère. Quand la vie de Dieu a été criblée et secouée, il a une soumission, une confiance à Dieu en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a également cette remise du contrôle de l'avenir en disant, tout est accompli. Mes amis, en fait, c'est très simple. Et je suis touché, je suis ému de voir Jésus dans sa vie, comment il réagit face aux circonstances de la vie, face aux secousses. Il y a ce passage de la Bible qui dit, quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste ? Et du coup, il y a vraiment cette question-là. Alors que nous sommes parfois chahutés, ébranlés, eh bien Seigneur, qu'est-ce qui va sortir de nous ? C'est quoi ? Est-ce qu'il y a de la joie ? Est-ce qu'il y a de l'amour ? Est-ce qu'il y a du pardon ? Qu'est-ce qui va sortir de nous ? Et quand on reprend ces premiers points, ce système de théocratie où Dieu gouverne, eh bien en fait, vraiment, ça me console finalement, les amis, en me disant que même avec un, et c'est ce qu'on veut vivre à l'église Connect Grenoble, on veut être conduit par Dieu, on veut vivre en théocratie où Dieu prend les décisions. Mais même avec ce système-là, il y a toujours une faillibilité humaine parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est pas, et en fait, il y a vraiment quelque chose, j'en discutais, je sais plus avec qui, mais quelqu'un qui disait, il y a vraiment cette dimension de mettre nos attentes sur celui qui peut tout, à savoir Jésus. Et en fait, si vous mettez des attentes sur un homme, sur une église, sur un système humain, il y a toujours 20% qui va foirer. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand bien même il y a les meilleures intentions de vous, de moi, il y a une partie de nous qui foire, malheureusement. Mais combien sont d'accord ensemble pour aller de l'avant et pour essayer? Est-ce qu'on peut se lever ensemble si vous voulez bien? Les questions que je pose ici durant la prédication, c'est est-ce que je contrôle ta vie? Et c'était ce message où il y a un moment donné où le peuple est là et il trouve que ça ne marche pas, et être gouverné par Dieu, ça ne marche pas, et parfois, que ce soit des leaders, ou même parfois dans comment Dieu agit dans ta vie, tu peux te dire, mais ça ne marche pas, ou les décisions que Dieu a prises, ou l'avenir qu'il me donne, ou la direction dans laquelle prend ma vie, ça ne fonctionne pas. Et il y a toujours cette tentation de reprendre le contrôle, de reprendre le contrôle de ma vie, de reprendre la barre du bateau, de reprendre le volant de ma vie parce que je pense et je crois que je vais mieux diriger. Et quand on regarde ces statistiques où on voit qu'il y a finalement 80% de pas bon quand l'homme conduit, il y a 20% où finalement Dieu est un petit peu là et Dieu essaye de faire tout ce qu'il peut pour à ce que ta vie aille bien. Mais la question qui se pose en ce début d'année 2025, c'est est-ce que tu décides d'abandonner le contrôle entre les mains de celui qui peut tout? Est-ce que tu vis en soumission, c'est-à-dire sous la mission du roi des rois? Alléluia. Et est-ce que tu l'acceptes? Alors qu'on démarre cette nouvelle année, j'aimerais nous inviter à lui remettre le contrôle de nos vies personnelles, à lui remettre le contrôle de cette église, à lui remettre l'avenir de ta vie, de ma vie, à lui tout lui remettre entre ses mains et à dire « Seigneur, je veux que tu me conduis, je veux que tu me diriges ». Et si c'est votre désir, si c'est votre souhait, je vais simplement vous demander de tendre les mains au ciel. Et on va prier ensemble tous dans le même cœur. Seigneur, viens. Est-ce que vous pouvez prier là simplement où vous êtes en disant, Seigneur, je te laisse le contrôle. Je te laisse le contrôle de ma vie. Seigneur, je veux pas basculer un peu comme le peuple d'Israël en disant, mince, il y a un système où Dieu gouverne, mais ça foire. Il y a les gens qui, comme le cri du peuple, ils étaient même légitimes dans leur demande. En disant à Samuel, regarde, ils ne fonctionnent pas, ils font pas le job. Et finalement, Dieu, il vient, il dit, mais c'est pas... Et moi, ça me bouleverse. Il dit, mais c'est... Finalement, c'est moi qui décide de rejeter. C'est comme si Dieu prend nos erreurs dans son plan divin, ça ne l'arrête pas. Il y a vraiment cette tentation, alors que tout est basculé, alors que tout s'effondre, alors qu'on est secoué, de vouloir reprendre le contrôle. Et en fait, finalement, le Seigneur dit, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance pour les plans et pour les projets? Et ce ne sont pas tes erreurs, ce ne sont pas les erreurs ni même de moi-même ou d'un quelconque leader qui remettent en cause ces plans et ces projets qu'il a pour cette église, ni même en cause ces plans et ces projets qu'il a pour ta vie. Est-ce que tu me laisses le contrôle? Alléluia. Alors Seigneur, on le déclare ce matin, on veut te redonner le contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi les amis? On veut te donner le contrôle, on veut te donner la vie, on veut te donner l'avenir et on veut prier ensemble Seigneur pour que tu puisses nous surprendre alors qu'on te confie la conduite, alors qu'on te confie le volant de cette église, de cette année 2025 et on veut être surpris parce que toi tu vas faire au nom de Jésus en t'avant prié. Amen et Amen et Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu reste au contrôle. Alléluia. Les amis, soyez bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Ici, même heure, même lieu. On va démarrer cette année 2025 en jeûne et en prière. Et on croit que Dieu est au contrôle et on croit qu'il va nous surprendre. Soyez bénis. Seulement, vous me souhaitez-vous la bonne fin d'année. Et aussi, ne partez pas, il y a une agape qui est ici dans une pièce juste à côté. On aimerait prendre une espèce d'apéro dînatoire. Donc, ne partez pas. Est-ce que je pourrais juste vous demander, alors que vous partez, de mettre des piles de chaises de 10 pour faciliter le rangement de toutes les chaises. Soyez